supplémentaires Les Bonnes Affaires pour 34 centimes la minute sur votre téléphone en composant le 3230 étoile et choix 6.
10h04, on part à la Bourse de Paris.
La Bourse, avec le groupe Céléos, aménageur et promoteur immobilier.
Et Antoine Verlin, bonjour Antoine.
Bonjour Claire.
Tendance à la hausse ce matin à la Bourse ?
Eh bien oui, la Bourse de Paris qui a déjà rebondi de 3,69% en deux séances seulement semble encore bien disposée ce matin puisque le CAC 40 avance actuellement de 1,27%. Elle remonte à 4 917 points dans un volume d'affaires global d'1,5 milliard d'euros négociés. Une vigueur également de mise hier à New York où le Dow Jones a gagné 1,45% et le Nasdaq 2,32%. Mais ce n'est rien comparé à Tokyo où le Nikkei s'est même envolé ce matin avec un gain de 4,27%. Côté devise, l'euro est en progression de 0,28% et remonte à 1,4627. Parmi les principaux rendez-vous économique du jour, on retiendra le PIB du quatrième trimestre de la zone euro, la balance commerciale américaine de décembre et les demandes d'allocation chômage enregistrées la semaine passée outre-Atlantique, mais surtout l'intervention de Ben Bernanke, le président de la Fed, devant le Sénat des États-Unis. Je vous rappelle que le CAC 40 en attendant lui gagne 1,29% maintenant, il est à 4 918 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Bonjour, c'est Yves Calvi. Aujourd'hui, l'invité de Nonobstant est le peintre Gérard Garouste. Il est l'un des artistes français les plus célèbres au monde. Il nous dit donc à quoi ça sert d'être peintre dans une société où l'image est partout. Gérard Garouste expose aussi sa vie, son enfance en Bourgogne, un père qui fait de l'argent avec les biens des juifs raflés. Il parle aussi de la folie qui l'a conduit à l'hôpital. Mais ça va beaucoup mieux quand il fait du théâtre. Bref, Gérard Garouste en toute sincérité.
Nonobstant. Yves Calvi, du lundi au jeudi à 17h. One, two, three, four, tell me. France Inter présente Sleepless Long Nights. Faced The Reminder. En concert à Paris au Grand Rex les 3 et 4 juin, à Lille le 25 mai et à Lyon le 5 juin. Retrouvez Faced et ses nouvelles chansons dans le programme musical de France Inter.
France Inter.
La différence.
Mais oui, vous écoutez France Inter, 10h06, et c'est l'heure de service public avec Isabelle Giordano. Bonjour Isabelle.
Bonjour Claire, une émission qui, j'imagine, une fois de plus, va vous intéresser, puisque comme beaucoup de gens, vous possédez un ordinateur.
Eh oui.
Eh bien voilà, la suite vous concerne. À tout à l'heure, Claire.
À tout à l'heure.
11h. Bonjour à tous et bienvenue dans Service Public. J'ai reçu une lettre. Le 4 janvier dernier, un auditeur m'alertait dans une longue missive sur le problème de la vente liée que pratiquent les fabricants et les distributeurs de matériel informatique. Je m'explique. Lorsque vous achetez un ordinateur, et notamment un ordinateur portable, vous êtes automatiquement obligé d'acheter le logiciel Microsoft. Cela s'appelle une vente forcée. Elle est inadmissible et elle est dénoncée en ce moment par beaucoup de gens. De plus, écrit cet auditeur, le consommateur ne dispose d'aucune information sur le détail de ce qu'il acquiert. Et la lettre se conclut de la façon suivante. Les auditeurs de votre émission sont soucieux de leurs droits. Ils veulent agir pour préserver leur liberté de choix. Ils devraient donc être sensibles à ce scandale qui touche chaque année les 6 millions d'acheteurs d'ordinateurs. Eh bien, cet auditeur, nous lui donnons aujourd'hui la parole à travers l'association à laquelle il appartient, l'April, l'association pour la promotion et la défense du logiciel libre. C'est une association qui a au moins le mérite de poser une juste question. Peut-on aujourd'hui échapper au monopole de Microsoft ?
C'est comme quand vous achetez un Mac, c'est pareil. Hein. Vous êtes obligé d'être sous Léopard ou sous Tiger. Dans ce cas-là, on n'achète pas d'ordinateur. Hein. Dans ce cas-là, on monte son ordinateur soi-même et puis on installe ce qu'on veut. Quoi. Et ça, vous pouvez le faire. C'est pour ça, moi, je force personne à acheter chez moi. Hein.
Extrait du reportage que vous entendrez dans un tout petit instant. Thomas Chauvineau s'est rendu dans plusieurs magasins. Il a essayé d'acheter un ordinateur sans logiciel Microsoft. Difficile, voire impossible. 01 45 24 7000, comme tous les matins. Appelez-nous, posez-nous des questions ou réagissez comme vous le faites d'ailleurs depuis plus d'une heure. Vous nous envoyez beaucoup de messages et de mails pour nous parler de ce problème, ce monopole de Microsoft. Êtes-vous sensible au monopole de Microsoft ? Peut-on échapper, d'après vous, à ces logiciels qui sont automatiquement installés sur les ordinateurs? Je vous propose d'en débattre aujourd'hui avec mes deux invités. Alix Cazenave, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission de l'April, cette association que j'ai citée, donc l'association de promotion et de défense des logiciels libres. Et face à vous, Edouard Barrero, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous travaillez à l'UFC Que Choisir, vous êtes également chargée de mission. Vous êtes un spécialiste de tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Avant d'aller peut-être plus en avant sur le problème qui nous intéresse ce matin, une petite réflexion vue dans Libération, il y a quelques jours, un numéro spécial consacré à mai 68, où la question suivante était posée, qui sont aujourd'hui les révolutionnaires? Si mai 68 avait lieu aujourd'hui, qui verrait-on dans la rue? Eh bien, parmi eux étaient cités les membres de l'April. Alix Cazena, votre combat est un combat révolutionnaire à ce point-là?
Oui, c'est quelque part une révolution que de passer d'une économie de rente concernant le logiciel en disant qu'on va faire payer chaque copie marginale à une économie beaucoup plus productive de valeur ajoutée au final, puisque non seulement on partage la connaissance, mais en plus on donne accès à tout le monde à des logiciels qui sont complètement fonctionnels au quotidien. Pour la science, c'est également un fonds commun qui va s'enrichir en permanence et dont personne ne pourra retirer. Et puis au niveau du secteur économique, évidemment, c'est une économie de services très florissante qui a eu une croissance de plus de 60% l'an dernier.
Et puis se battre contre un géant comme Microsoft qui a vendu l'année dernière des millions de logiciels Vista, c'est peut-être aussi un peu David contre Goliath, non? Vous n'avez pas l'impression de vous battre comme Don Quichotte, c'est le cas de le dire, non?
Un petit peu, oui, c'est sûr que c'est un combat qui est complètement asymétrique, parce que quand on est face à un acteur en position dominante avec une telle puissance, c'est évident que ce n'est pas facile tous les jours, mais le logiciel libre se fait sa place petit à petit. Et nous savons que nous sommes sur la bonne voie.
Edouard Barrero, pour l'UFC Que Choisir, c'est là aussi un vrai combat. On connaît les combats de l'UFC Que Choisir, on les relaye très souvent dans cette émission. En quoi est-ce que le consommateur aujourd'hui, comme Thomas Chauvineau qu'on va entendre dans un petit instant, est concerné? Acheter un ordinateur avec Microsoft, le consommateur peut aussi s'en satisfaire et trouver ça très bien?
Oui, disons que c'est un aspect des choses. On a toujours le sentiment qu'acheter un ordinateur avec Microsoft, c'est super bien parce que vous avez rien à faire. L'ordinateur chez vous, il fonctionne. Mais le consommateur, il est piégé deux fois. La première fois, quand il achète l'ordinateur, il ne sait pas ce que lui coûte Windows. Il ne sait même pas qu'il existe des alternatives Windows. Et la deuxième fois où il est piégé, c'est lorsqu'il va acheter des logiciels compatibles et même des fichiers de la musique, de la VOD. Tous ces produits-là sont vendus au format Microsoft. Par exemple, aujourd'hui, vous voulez en prendre un film en VOD sur n'importe quel site commercial. Si vous avez un Mac ou un système Linux, vous ne pouvez pas le lire. Parce que tous les standards convergent vers Microsoft, parce que c'est le plus grand.
On parle de vente forcée, de vente liée. Ces systèmes sont des systèmes illégaux. Est-ce que la position aujourd'hui de Microsoft est une position illégale? Est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là?
Bien sûr, puisqu'on ne peut pas acheter d'ordinateur sans logiciel, donc c'est la vente liée. C'est reprendre le droit ligne par ligne, c'est rien de plus que ça. C'est de la vente forcée parce que le consommateur ne peut pas aujourd'hui acheter un ordinateur avec autre chose que du Microsoft.
Alors, nous reviendrons d'ailleurs sur ces mots qui sont importants, sur ces mots que j'ai utilisés, le monopole, l'illégalité, parce qu'une bataille juridique se déroule devant les tribunaux depuis de longues années quand même. Microsoft a plusieurs fois été condamné pour abus de position dominante, donc on y reviendra. Illustration pour l'instant, comme je le disais, avec Thomas Chauvineau, qui s'est rendu dans deux grands magasins, deux grandes surfaces, des distributeurs informatiques, pour acheter un ordinateur, une unité centrale, un portable sans Windows. Eh bien, c'est difficile, on écoute.
Bonjour.
Bonjour.
J'aurais des petits renseignements concernant une unité centrale.
Oui.
Je cherche quelque chose d'assez familial, vous voyez, bon, rapport qualité-prix, quoi.
Il y a la serre qui est pas mal, celle-ci.
Celle-ci, là?
Ouais, elle tourne bien. Elle est sous Vista, donc comme tous les appareils qu'on a à l'heure actuelle.
Elle est uniquement sous Windows Vista, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer de système d'exploitation.
Ça, si, vous pouvez le faire, mais après, si...
C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'acheter, mais sans Windows Vista.
Ça, j'ai
pour
pas.
Mettre autre chose.
Ça, j'ai pas.
Parce que du coup, Windows Vista, on le paye en plus, non, j'imagine, sur le prix de la machine, là.
Mm-hmm.
Parce que moi, j'ai déjà payé une fois la licence pour le système d'exploitation, donc ça me gêne d'avoir la repayer une seconde fois en rachetant un PC, quoi.
Je comprends. Mais là, je peux rien pour vous. Sinon, il faut aller trifouiller dans le BIOS, vous supprimez Windows Vista, vous installez Linux, mais par contre, vous allez avoir des soucis de driver.
Et c'est pas un peu de la vente forcée, ça, du coup?
C'est comme quand vous achetez un Mac, c'est pareil. Hein. Vous êtes obligé d'être sous Léopard ou sous Tiger. Dans ce cas-là, on n'achète pas d'ordinateur. Hein. Dans ce cas-là, on monte son ordinateur soi-même et puis on installe ce qu'on veut. Quoi. Et ça, vous pouvez le faire. C'est pour ça, moi, je force personne à acheter chez moi. Hein.
Bon, bah tant pis. Merci, monsieur.
Bonne journée.
À vous aussi.
Bonjour. En fait, je cherche un portable. Voilà, pour un usage assez classique, familial, enfin, j'ai pas besoin de quelque chose de très très performant.
Bah, à ce moment-là, on a des machines ici dans les 700 euros, 800 euros. Donc là, on peut trouver déjà suffisamment de puissance. Ouais.
D'accord. Alors, l'autre chose, c'est que j'ai déjà par ailleurs acheté une licence pour Windows Vista, donc je voudrais pas l'avoir sur l'ordinateur.
Ah, le souci, c'est que là, non, on n'a que les machines qui sont déjà préinstallées avec Vista dedans. Quoi. C'est des licences OEM. OEM, c'est bien fourni avec la machine. Donc, il coûte quand même beaucoup moins cher que si vous achetiez le Mac Office, le Mac Vista pardon, en boîte. Quoi.
D'accord. Mais là, par exemple, ça coûte 699 euros, ouais. Celui que vous me proposez. On ne sait pas combien Vista coûte là-dessus.
Ça coûte moins de 100 euros, Vista.
D'accord, mais donc moins de 100 euros, ça ferait quand même 599 ouais, au lieu de 699, vous voyez.
Je comprends votre logique.
D'ailleurs, s'il n'y a pas un peu un abus de monopole là,
bah, parce que c'est clair, c'est comme ça qu'on peut le ressentir, bien sûr. De toute façon, notre Windows, il y a toujours eu une situation de monopole, de toute façon, même si il s'en cache. Je suis d'accord, hein, mais moi, je ne veux rien y faire de plus. Quoi. C'est vrai que c'est vendu comme ça, on en est seulement les victimes quelque part, hein, vous et moi d'ailleurs. Hein, donc,
Et pourquoi dans ce cas votre magasin ne décide pas de vendre aussi des ordinateurs avec Linux ou de vendre des ordinateurs sans Windows?
Parce que le magasin lui-même n'a pas de pouvoir pour ça, il ne peut pas le faire.
C'est pas possible.
Les modèles qui sont construits en série chez Toshiba, chez les grandes marques, sont fournis déjà avec le Windows à l'intérieur. C'est vrai que les magasins n'ont pas le pouvoir de dire au constructeur, bah, vous mettez pas Windows dedans, vous mettez un Linux, vous mettez rien. Les accords se font vraiment entre les constructeurs et les éditeurs, donc Microsoft.
Désolé, hein, monsieur.
Reportage in situ de Thomas Chauvineau, puisque petite information pour les auditeurs de France Inter, aucun distributeur n'a pu ou voulu participer à cette émission aujourd'hui en direct. Monsieur Surcouf, Monsieur Darty, Monsieur Fnac, si vous nous écoutez, nous sommes en direct, n'hésitez pas à nous appeler 01 45 24 7000 et bien sûr Monsieur Microsoft. Avec moi, je le redis, l'UFC Que Choisir et l'April, l'association pour la promotion et la défense des logiciels libres, Alix Canave et Edouard Barreiro, excusez-moi, j'ai hispanisé votre prénom. Comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? Vous aviez l'air assez choqué, Alix Cazenave, des propos tenus par des vendeurs.
Oui, je pense que c'est une drôle de manière de traiter le client que de lui dire que si l'offre ne lui convient pas, il n'a qu'à aller chez un assembleur. J'ai préféré l'approche du second vendeur qui disait que oui, c'était peut-être un problème et que en effet, ça constituait un préjudice pour le consommateur. Mais le vrai problème, c'est le monopole qui barre complètement l'entrée sur le marché à tout nouvel entrant, à toute diversité. Il ne peut y avoir aucune diversité dans l'offre parce que Microsoft passe des accords d'exclusivité avec les constructeurs et que les constructeurs réservent l'entièreté de leur marché grand public à des Vista OEM. Donc OEM, c'est ce qu'on disait, ce sont des logiciels préinstallés dont la licence est attachée au poste informatique lui-même et non pas à un utilisateur.
En même temps, on l'a bien entendu, même si ce vendeur essaye de donner les meilleurs conseils, il est pieds et poings liés avec un système qui est préexistant, on ne peut rien faire d'autre. Le consommateur qui est là et qui veut juste acheter un ordinateur ne peut rien faire finalement. Edouard Barreiro, c'est un préjudice, mais c'est aussi une situation en fait contre laquelle il est bien difficile de se battre.
Oui, mais il faut quand même mettre en cause les distributeurs. Nous, on a à l'UFC Que Choisir, on a porté plainte contre HP, Auchan et Darty. Alors on nous dit souvent, mais pourquoi vous portez plainte contre les distributeurs, ils sont pour rien? Bah, tout simplement parce que c'est les distributeurs qui négocient avec les marques comme Toshiba et c'est à eux de faire pression sur eux pour proposer autre chose. On a par exemple l'exemple de Dell qui a été vraiment embêté avec ça et aujourd'hui propose des systèmes avec Linux. Bon, bien sûr, ils le font à la marge avec toute une tentative de dissuasion, c'est-à-dire par exemple vous avez des délais de 2-3 mois pour obtenir un ordinateur, mais parce qu'il y a pression. Donc il faut faire pression sur Darty, sur Auchan, sur Conforama. Il faut que le consommateur fasse cette pression-là. Sinon, ces acteurs-là ne font jamais d'efforts pour avoir d'autres produits différents de ce Microsoft, parce que c'est une situation très confortable. Ils reçoivent l'ordinateur à bon prix, ils leur vendent, c'est tout.
Et pour vous, seule la bataille judiciaire permettra de faire avancer les choses et de modifier cette situation?
Là, on est obligé parce qu'on est face à un acteur qui est beaucoup trop important, qui a beaucoup trop de pouvoir. C'est-à-dire que nous-mêmes, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir porter plainte contre Microsoft, tout simplement. On essaie de trouver l'entrée juridique. Il y a différentes positions au niveau européen. Par exemple, il y a Opera, il y a une association de fournisseurs de logiciels indépendants, industriels qui s'appelle le CIS. Il y a toutes ces procédures en cause. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir.
Beaucoup d'auditeurs, vous vous en doutez, nous font le même constat que celui qu'a fait Thomas Chauvineau. Par exemple, Alain Saint-Etienne nous dit il est actuellement pratiquement impossible d'acheter un ordinateur sans Vista. Alix Cazenave, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais dire que si l'UFC Que Choisir se trouve aujourd'hui plus ou moins contrainte aussi d'en passer par la voie judiciaire, c'est que on a aussi une démission de l'exécutif sur ces sujets-là. Ça fait plusieurs années maintenant, ça fait depuis le début des années 2000 que des associations, aussi bien des associations de logiciels libres que des associations de consommateurs, interpellent la DGCCRF et donc le ministère en charge de la consommation sur cette question-là. Depuis toutes ces années, rien n'a été fait. Mmh. Il y a un certain député, Luc Châtel, qui en 2005 avait posé une question écrite à ce sujet, qui s'indignait de cette situation et du fait que la DGCCRF ne faisait rien. Ce député, Luc Châtel, est aujourd'hui secrétaire d'État à la consommation. Force est de constater qu'il n'a rien fait et que visiblement il n'entend rien faire pour l'instant. Il attend que l'UFC justement essuie les plâtres de la justice.
Et ça prend des années.
Mm-hmm. Et ça prend longtemps.
Effectivement,
et c'est
j'ai vu un certain nombre d'informations sur Internet où vous mettez en cause la répression des fraudes. Mais que fait-elle? Enfin, vous êtes très accusateur vis-à-vis de la répression des fraudes.
Oui, effectivement.
Il y a une inaction que vous constatez en tout cas.
Voilà. Alors il y avait une démarche positive qui avait été engagée avec l'UFC, la CLCV et puis d'un autre côté les constructeurs et les distributeurs. Il y a eu une première réunion avec les associations de consommateurs et d'utilisateurs de logiciels libres, une deuxième réunion avec les constructeurs et les distributeurs, et il devait y avoir une troisième réunion où, quelque part, on aurait pu mettre les solutions sur la table et se confronter les uns avec les autres. Cette troisième réunion n'a jamais eu lieu. La DGCCRF n'a jamais tenté de mettre en œuvre toutes les solutions d'optionnalité qui ont été proposées, qui ne remettent pas en cause le modèle des licences préinstallées et de fabrication et de distribution des ordinateurs aujourd'hui. Donc rien de traumatisant, mais simplement permettre aux consommateurs d'avoir une optionnalité. Eh bien tout cela n'a jamais été fait, et Luc Châtel lui-même a dit, lors du projet de loi sur la consommation, il a dit aux députés qu'il ne ferait rien tant que le procès de l'UFC n'aurait pas abouti.
Eh bien, écoutez, je vous propose de vous servir de cette antenne. On est là pour ça. Nous allons nous faire un petit peu le porte-parole de votre combat. Et nous pouvons, à travers cette émission, alerter à nouveau la répression des fraudes, puisque Bruno Parent était notre invité il y a 15 jours. Et nous alertons également Luc Châtel, qui suit attentivement, je sais, cette émission. Donc, j'espère que voilà, ce que nous dirons aujourd'hui aura des suites. En tout cas, on se fera fort de relayer tout ce que vous nous direz dans cette émission. Je vous propose de donner la parole maintenant à Sandrine qui nous appelle. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour.
Vous avez un ordinateur avec Vista.
Voilà, tout à fait. J'ai acheté fin décembre un ordinateur Toshiba à la Fnac. Donc j'étais contrainte de le prendre avec Vista. Les vendeurs de la Fnac m'avaient assuré à ce moment-là qu'il n'y avait plus de problème d'installation de matériel, imprimante, scanner, etc. J'ai rencontré des problèmes. Il a fallu télécharger des pilotes sur Internet. Donc il faut s'y connaître un petit peu pour pouvoir installer son propre matériel. Ça n'a pas fonctionné du premier coup, j'ai donc rappelé la Fnac, j'ai un petit peu râlé en disant que j'étais pas satisfaite de travailler avec Vista, que j'aurais préféré reprendre le XP que je connaissais d'avant, et on m'a répondu que maintenant les ordinateurs étaient fabriqués pour fonctionner avec Vista. Mmh. Donc j'avais trouvé cette réponse un peu simpliste et puis farfelue, je me suis dit, il me prend pour une demeurée, parce que franchement, me dire que les ordinateurs sont fabriqués pour fonctionner avec Vista, c'est vraiment prendre des gens pour des andouilles.
Vous êtes des milliers, hein, Sandrine, hein, dans ce cas, puisque Vista,
Vista a inondé
le marché.
Pardon?
Et Vista a inondé le marché l'année dernière et nous faisons effectivement ce matin une sorte de bilan. On peut le faire aussi avec mes deux invités. Sandrine, si vous voulez rester attentive, les conclusions d'une enquête qui a été menée très récemment sur un site informatique, de mémoire je crois que c'est le site 01.net, un sondage a été lancé. Quel bilan faites-vous de Vista? Trois constats: c'est beaucoup plus lent que les autres logiciels, c'est peu sûr, Et surtout, il y a d'énormes problèmes de compatibilité avec d'autres logiciels. Donc, bilan largement négatif. C'est aussi le bilan que vous faites à l'UFC Que Choisir?
Oui, alors déjà, j'ai plusieurs commentaires à faire. Le premier, c'est ce que lui a dit le vendeur, que les ordinateurs sont faits pour fonctionner avec Vista, ce n'est pas entièrement faux. C'est-à-dire que Microsoft passe des accords avec les fournisseurs de matériel pour qu'ils ne fournissent des drivers, enfin des pilotes, que pour Vista. C'est pour s'assurer la promotion de Vista, notamment parce que le décollage est assez difficile au début. Il faudrait aussi dire que le système Vista est un système qui est très très lourd, mais c'est dans la logique de Microsoft, c'est-à-dire on a ce qu'un professeur a appelé la loi de lourd. Les ordinateurs sont de plus en plus puissants, mais les logiciels sont de plus en plus lourds, donc si bien que ça s'annule. Et donc aujourd'hui, avec un ordinateur de 2008, on fait exactement la même chose qu'un ordinateur de 2004. Ça veut dire que finalement le consommateur ne gagne rien à passer de XP à Vista, et il perd beaucoup d'argent, parce que les ordinateurs Vista, ils sont configurés pour accueillir de nouveaux logiciels. Par exemple, vous pouvez pas utiliser votre Office XP, vous devez utiliser le nouvel Office 2007. Et donc si vous passez de XP à Vista, et que vous avez entre-temps acheté beaucoup de logiciel pour votre XP, vous devez tout racheter pour Vista. Donc ça, c'est très inquiétant pour le consommateur quand même.
C'est surtout inquiétant pour son porte-monnaie. Je vous propose d'écouter un autre témoignage, celui de Richard dans l'Isère qui travaille dans l'informatique. Bonjour Richard.
Oui, bonjour à vous tous.
Je vous écoute.
Écoutez, donc moi je voulais apporter mon témoignage dans deux directions principales, celle de Microsoft et puis aussi sur les existences d'alternatives, notamment les logiciels à base de Linux. Concernant Microsoft, déjà tout le monde sait que c'est très très peu fiable. Dans mon métier, je travaille avec des développeurs et ces gens-là et moi-même, on a eu à faire face plusieurs fois, régulièrement chaque semaine, à des pertes de données, des pertes de travail qui peuvent être de 2 heures, 3 heures, voire une demi-journée ou une journée complète de travail perdu.
J'ai connu ça aussi, oui, ça me rappelle quelque chose.
Ouais, tout à fait, parce qu'on travaille sur des logiciels Microsoft qui gèrent très mal les accès, sans être technicien, mais qui gèrent très mal l'accès au matériel, notamment. Ensuite, il faut savoir que Vista, notamment équipé déjà avant, fait de l'espionnage sur les données personnelles des gens pour les revendre et les utiliser à des fins commerciales ou à des fins de spam, et etc. Je vais essayer d'aller vite. Microsoft est aussi responsable de la concurrence auprès des éditeurs de logiciels. C'est-à-dire que, vu sa puissance financière, il est capable de racheter des gens qui produisent des produits intéressants et de se les accaparer. Donc on a une tendance au monopole qui est très poussée. Microsoft détourne aussi les protocoles, de façon à ce que les ordinateurs qui soient équipés de logiciels Microsoft ne demandent à utiliser d'autres logiciels Microsoft et à fermer la possibilité d'utiliser des logiciels de différentes sources sur un même ordinateur, par exemple. On n'a aucune innovation dans le monde du logiciel Microsoft, dans le monde des licences propriétaires. Toutes les innovations sont apportées et toutes les nouveautés sont apportées par les gens qui cherchent dans le domaine du libre.
Donc en fait, Richard, vous faites le procès de Microsoft, hein, à vous écouter.
D'une certaine manière, si vous voulez, mais laissez-moi continuer, s'il vous plaît.
Oui. Mais je voulais ajouter que vous n'étiez pas seul, vous n'avez pas une position minoritaire, vous n'êtes pas seul à tenir ce genre de propos.
Oui, tout à fait. Et puis bon, si vous voulez, c'est un propos que je tiens depuis maintenant plusieurs années, et puis c'est un propos qui s'assoit aussi sur l'expérience, tant en tant qu'utilisateur avant que je sois professionnel, et tant aussi en tant que professionnel. Mais je voudrais aller plus loin, s'il vous plaît. Donc ensuite, il y a on l'a déjà évoqué, mais c'est effectif que le IBM, HP sont victimes de pression, et les autres constructeurs sont victimes de pression de Microsoft pour imposer leurs logiciels, mais je reviens pas, ça a déjà été dit. Il faut aussi préciser que ce que fait Microsoft, c'est de la vente forcée, et c'est interdit par la loi.
Alors c'est effectivement tout le combat dont nous parlons aujourd'hui, effectivement vente forcée illégale, mais malheureusement la bataille judiciaire va prendre des années et elle se déroule déjà devant les tribunaux depuis de longues années.
Il n'y a pas, j'entendais ça tout à l'heure effectivement par l'un de vos interlocuteurs, la bataille devra se gagner dans les tribunaux, mais la bataille peut aussi se gagner dans le supermarché.
Ouais.
C'est-à-dire que nous, consommateurs, nous avons aussi la possibilité de ne pas acheter.
Le chariot est un pouvoir.
Voilà,
effectivement,
donc,
merci de le rappeler, Richard.
Moi, j'appelle au boycott des produits Microsoft, tout simplement. Pour les gens, et pour en terminer peut-être sur Microsoft, je voudrais dire qu'il existe, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, une publication sur Internet qui est l'œuvre d'un monsieur qui s'appelle Roberto Di Cosmo, qui s'appelle l'Ode planétaire. C'est un petit fichier au format PDF qui est l'équivalent d'un bouquin de 145 pages et qui vous apprendra énormément de choses sur les pratiques délictueuses de Microsoft.
Je vois que mes deux invités connaissent cet ouvrage. Alix Cazena, vous l'avez lu?
Oui, c'est un ouvrage remarquable où Roberto Di Cosmo, il y a déjà plusieurs années, je crois que c'était il y a près de 10 ans, décrivait déjà comment Microsoft appliquait sa mainmise sur le marché du logiciel et comment il régissait finalement toute l'édition.
Merci Richard pour ce coup de fil. Vous avez dit des choses très importantes.
Attendez, parce que je voulais aussi aborder le sujet des Linux.
Oui.
Si vous me permettez quelques instants. Donc Linux, c'est des logiciels qui sont libres et gratuits. C'est-à-dire qu'une licence, la licence GPL, garantit la liberté d'utilisation et l'accès au code source.
On va en parler effectivement avec mes invités. Merci beaucoup Richard. Je rappelle pour ceux qui prennent l'antenne que Richard appelle carrément au boycott et qu'il vient de nous dire la bataille judiciaire certes, mais la bataille se gagne également dans les supermarchés. J'imagine que à l'UFC Que Choisir, avec un président comme Alain Bazot, vous êtes forcément d'accord avec ce genre de propos.
Bien sûr.
C'est peut-être pas si simple que ça, et j'ai envie de confronter ce que vient de dire Richard au propos d'un autre auditeur. Johan nous dit certes, voilà, le monopole de Microsoft existe bel et bien, mais le monopole veut dire également standardisation. Et la standardisation, tout le monde en veut, nous dit cet auditeur. Regardez, par exemple, les problèmes d'interopérabilité qui existent entre MP3 et les problèmes également que l'on connaît en ce moment avec les standards Blu-ray, HD-DVD, etc. Est-ce que on peut peut-être mettre en balance ces deux avis.
Dans le propos qui rapporte le deuxième auditeur, c'est que la standardisation, oui, mais c'est pas, il faut un standard ouvert dans ce cas-là, parce que Microsoft fait des standards, mais il les ferme. Personne ne peut les utiliser. Et c'est très intéressant parce que la semaine dernière, j'étais à la réunion de la TSD, qui est la réunion des consommateurs transatlantiques, américains et européens. Mm-hmm. Il y avait une personne de Microsoft, d'ailleurs assez agressive, qui montre que l'empire est déclinant, qui nous tenait exactement le même propos en disant qu'on était des criminels parce qu'on voulait mettre fin à la standardisation. Ben nous, on en veut bien la standardisation, mais donnez-nous les moyens d'utiliser ces interfaces. Et après, la réponse, c'est dire oui, mais je dois protéger ma propriété intellectuelle. Donc dans ce cas, je pose la question, à quoi sert la standardisation si elle sert à un seul éditeur?
Cela dit, je poursuis ma question, qui est une question de consommatrice. Est-ce qu'aujourd'hui, si je m'équipe avec Linux, je peux avoir accès à ces VOD, à ces sites que vous avez cités au début d'émission?
Non, mais c'est à cause de Microsoft, puisque c'est géré par des DRM qui sont propriétaires Microsoft. Mm-hmm. Donc Microsoft, bien sûr, ne donne pas comment utiliser ces DRM aux autres.
Et DRM, c'est tout le problème.
DRM, c'est Digital Rights Management, c'est-à-dire c'est des petites clés électroniques qui vous empêchent de copier, de transférer ou d'échanger par peer-to-peer des logiciels, ou alors de faire un contrôle sur la consommation. Par exemple, le morceau, vous pourrez l'écouter seulement une fois ou 24 heures, des choses comme ça.
Mmh. Alix Cazenave, un petit rappel quand même rapide sur cette bataille juridique qui se déroule depuis quand même de longues années. Je l'ai dit, Microsoft a déjà été condamné pour abus de position dominante, d'ailleurs aux États-Unis aussi. Cette bataille judiciaire, même si elle va être longue, elle a des chances de gagner ou pas? Enfin, est-ce que l'UFC Que Choisir a des chances de gagner ou pas?
Nous l'espérons, parce que c'est vrai que Microsoft a déjà été condamné plusieurs fois aux États-Unis pour antitrust.
Il y a eu plusieurs procès, à chaque fois ils ont dû payer des millions de dollars.
Oui, mais c'est pas les millions de dollars qui les font plier. C'est bien ça qui est inquiétant.
Peut-être qu'un jour ça va les faire réfléchir.
Oui, peut-être. Il faut espérer. C'est peut-être plutôt le déclin de leur empire qui va les faire réfléchir, qui va les obliger à s'ouvrir. En attendant, c'est vrai que il y a un problème par rapport à la standardisation, effectivement, comme disait Edouard. On sait que Microsoft est intervenu justement sur les questions de standardisation des formats bureautiques pour essayer d'imposer son standard. Or, il existe déjà un standard ouvert qui est l'Open Document Format, qui est un standard ISO, et Microsoft souhaite imposer son format Office OpenXML pour pouvoir contrôler. C'est-à-dire que après Microsoft va pouvoir faire des nouvelles versions de ce format et donc contrôler à nouveau le marché par leur pack Microsoft Office. Donc il faut pas croire que parce que c'est un monopole et que tout le monde utilise la même chose, on est plus libre en fait et qu'on a plus d'interopérabilité. Mmh. C'est juste une illusion. Parce que quand Microsoft aura décidé que c'est terminé, ils changeront et ils vous feront acheter une nouvelle version du pack Office. Donc est-ce que vraiment ça c'est constructif? Je ne crois pas. Et d'autre part, sur les DRM, Edouard Barrero parlait de petites clés numériques. Nous, on parle de verrous parce que c'est pas quelque chose qui permet d'accéder. C'est au contraire quelque chose qui empêche l'accès, qui empêche la lecture, qui empêche la copie, qui contrôle les outils que vous allez utiliser pour faire ça. Et on peut le faire sous Linux, sous GNU Linux, parce que il y a évidemment tous les outils qui sont nécessaires, mais il y a une loi qui nous empêche de le faire et qui nous met dans l'illégalité.
Alors justement, nous parlons d'illégalité, nous parlons de vente forcée illégale ce matin avec ce sujet. Peut-on vraiment se passer de Microsoft? Peut-on échapper à leur monopole? Avec des expressions qui sont fortes. Hein. On a parlé d'appel au boycott avec un auditeur. Donc vous le voyez, le sujet est chaud. 01 45 24 7000, vous pouvez continuer de vous exprimer. Je passerai la parole aux auditeurs juste après Ibrahim Ferrer.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Service public. Vos commentaires sur franceinter.com.
Chantage, vente forcée, appel au boycott, les propos que nous tenons ce matin dans Service public sont forts, mais ils sont légitimes. Et je voudrais donc laisser une large place aujourd'hui aux auditeurs qui nous appellent très très nombreux pour nous faire part de leur colère contre le monopole de Microsoft. Exemple, Luc à Montélimar, mon fils est en première, il prend des cours d'informatique à l'école, et bien ce sont des cours d'utilisation de logiciels Microsoft. Que fait l'éducation nationale? On devrait interdire ce genre de cours. Beaucoup d'appels aussi pour dénoncer le manque de fiabilité de Vista. Ah, que j'aime votre émission, nous dit Benoît à Lyon, depuis le temps que je rage contre la vente liée de systèmes d'exploitation avec les ordinateurs. Je vais donc peut-être tout de suite passer la parole à Christian. Bonjour Christian, vous nous appelez de Marseille. Je ne sais pas si vous avez l'accent.
Bonjour.
Oh non. Non, non, parce que je suis d'origine alsacienne, mais je suis marseillais depuis bientôt 50 ans. Donc,
oui.
Non, oui, moi, j'écoute cette émission avec un petit sourire.
Oui, dites-moi.
Hein, puisque je vous avais dit que la réponse, forcément, c'est oui, on peut s'en passer. Et ben, tout simplement parce que depuis 25 ans, je travaille sur Macintosh.
Mm-hmm.
Et que sur Macintosh, je ne suis pas soumis à Microsoft.
Oui.
Donc, je peux m'en passer et je m'en passe, je peux vous dire, avec beaucoup de plaisir. C'est vrai que ça ne m'empêche pas d'utiliser Microsoft Office, mais je n'ai pas la contrainte du système.
Rassurez-moi, vous ne travaillez pas pour Apple?
Pas du tout. Non, je suis dans la recherche scientifique.
Oui, c'est ce que j'ai vu. Vous êtes directeur de recherche au CNRS.
Voilà, donc c'est tout à fait en dehors d'une publicité pour Apple. Mais c'est vrai que je travaille avec Apple, je continuerai à travailler avec Apple parce que c'est vraiment une façon d'avoir le monde ouvert et de n'avoir pratiquement aucune contrainte.
C'est une position idéologique chez vous, hein. Vous dites que vous refusez l'addiction
de
Microsoft.
Non,
elle est professionnelle.
Parce
D'accord.
que je suis dans la publication, hein, je publie des notes, etc. Et tout ça, les professionnels sont sur Macintosh.
Merci beaucoup.
Donc c'est un choix d'outils.
Merci.
De travail, d'outils de recherche.
Merci Christian.
Mais pour dire, on peut très bien s'en passer, mais il faut faire l'effort.
On peut s'en passer, alors justement, c'est une question importante. Avant d'expliquer un petit peu aux auditeurs comment s'en passer, comment se passer de Microsoft et comment utiliser, quand on est un peu novice, comment utiliser des logiciels libres comme Linux, je voudrais attirer votre attention sur le témoignage de Michel, et il est très très important. Aucune grande entreprise publique en France n'a fait le moindre effort pour se détourner de Microsoft, nous dit cet auditeur. C'est un point important à souligner. Qu'en pensent vos invités? Eh bien, je vous pose la question avec peut-être déjà un début de réponse, Édouard Barrero, pour l'UFC Que Choisir.
Oui, tout à fait. En fait, il y a une petite erreur. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont passés au libre. Il y a déjà tous les parlementaires. Il y a, la gendarmerie qui l'a annoncé avec fracas récemment.
Donc,
il y a par exemple des organismes.
Au Parlement, vous nous dites que les députés sont équipés avec Linux.
Bien sûr.
C'est ce que vous nous dites. C'est
oui,
très important.
D'ailleurs, j'ai une anecdote assez croustillante. Un parlementaire, une fois, m'a dit, on a Linux, mais j'arrive pas à regarder mes DVD parce qu'il y a un DRM dessus. Et je peux pas regarder les DVD sur mon ordinateur. Donc
ouais.
Ça montre toute la problématique de la domination Microsoft.
Ils ont peut-être d'autres choses à faire que de regarder des DVD. Cela dit, c'était peut-être un DVD de travail, autant pour moi.
Peut-être aussi.
Cette personne aussi qui critiquait l'éducation nationale équipée avec Microsoft.
Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, dans l'éducation nationale, ils ont des prix sur Microsoft, voire des fois c'est gratuit.
Ouais.
Et pour une raison très simple, c'est parce que le Microsoft sait très bien que l'élève qui amène du travail chez lui ou qui amène des exemples chez lui, il sera obligé d'utiliser Microsoft, donc il fera acheter à ses parents un ordinateur Microsoft.
Qui d'autre dans le public a fait le choix d'un équipement alternatif?
Je sais que la CNAM est en train d'y passer aussi, par exemple.
Ouais.
Il y a aussi d'autres instituts, mais c'est vrai que là, de mémoire, je les ai pas. Mais
il m'a semblé que la gendarmerie aussi s'intéressait de près à Linux, non?
Ah oui, ils ont totalement basculé à Linux, la gendarmerie.
Est-ce peut-être s'avancer trop que de dire qu'ils trouvent que les systèmes de Microsoft et de Vista ne sont pas assez sûrs?
Je ne sais pas si c'est une question de sûreté, mais c'est surtout une question de coût. On s'en compte aujourd'hui qu'avec le logiciel libre, on a exactement le même service, que ces systèmes sont beaucoup plus légers, qui plantent moins, qui sont suivis longtemps, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de compatibilité pendant très longtemps, et cela a un coût qui est égal à zéro, donc c'est très très avantageux.
Ouais, parce qu'on peut le redire, hein, non seulement la vente est forcée, on nous oblige à nous équiper avec Vista, mais en plus Vista, je l'ai dit, c'est vraiment les internautes qui le disent, à 68% dans un sondage récent, les internautes trouvent que Vista ne marche pas bien, et comme vous l'avez dit joliment, plante.
Ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de spécialistes disent que la lourdeur des systèmes Microsoft, c'est tous les codes qu'ils mettent dedans pour le verrouiller, pour le piéger finalement.
Alors,
ils sont victimes de leur stratégie.
Une pétition circule en ce moment sur le net, pétition pour sauver Windows XP. Vous connaissez cette pétition, Alix Cazenave?
Oui, effectivement, on a entendu parler de cette pétition. C'est d'ailleurs assez marrant parce que ça fait un peu... On passe de Windows Vista à Windows Basta. Les gens en ont marre. C'est
peut-être l'opinion d'Eric, bonjour, dans le Nord-Pas-de-Calais. Windows Basta pour vous ou pas du tout, non?
Bonjour.
Bonjour.
Je suis pas un spécialiste d'informatique, ni un béotien. Et depuis que je vous écoute, je suis quand même un petit peu étonné. C'est vrai que quand on veut contourner les produits Microsoft, il faut quand même s'y connaître. Et je vais vous donner mon témoignage et en même temps quelques remarques, parce que je suis dans l'éducation nationale.
Mm-hmm.
Donc j'ai apprécié ce que vous avez dit et ce que j'ai entendu tout à l'heure à propos des élèves. C'est vrai que nous, je suis en lycée, finalement, c'est un conditionnement. Les élèves sont habitués à travailler sur Microsoft et finalement, ça arrange beaucoup de choses. Et je trouve ça un peu étonnant. Mais je vais revenir. Par exemple, non, moi, je suis pas du tout Vista. Enfin, j'ai un ordinateur avec Vista et je suis assez écœuré. Bon, je vais vous dire sur les...
Écœuré parce que ça ne marche pas?
Ça plante, c'est très lourd. Alors, une remarque que je pense pas avoir entendue, mais j'ai dû couper pour pouvoir pas faire de l'arsène.
Merci.
En achetant Vista, on force les gens à acheter des appareils, notamment les portables avec de la mémoire plus forte, etc. Donc effectivement, on force les gens à acheter des appareils plus chers. Bon, ça, c'est pas innocent. Je pense que Vista a surtout été fait pour pouvoir espionner et rentrer dans les données. Bon. Et on nous a tenu un discours marketing qui tient pas la route. Vista est une usine à gaz qui marche mal. On va devoir racheter des logiciels, etc. Bon, alors, en fin de compte, l'informatique, ça doit nous rendre des services. Et surtout, enfin, on est dans un système libéral, je suis pas étonné. Une pompe à fric, quoi.
Édouard Barrero pour l'UFC Que Choisir, je vous vois réagir au propos d'Éric.
Oui, non, mais c'est très intéressant. Non, mais c'est vrai que le système Vista ne marche pas du tout, que les consommateurs sont très très mécontents de ce système-là, et que beaucoup de gens finalement se disent ça fait des années que j'ai XP, que j'ai investi dans XP, aujourd'hui je passe sur Vista, et ce système-là ne m'apporte rien. Et c'est vrai aussi que les ordinateurs coûteraient beaucoup moins cher si on n'était pas sur Vista, parce qu'en fait on augmente la puissance des ordinateurs pour qu'ils puissent tolérer le système de Microsoft. Et si vous prenez un ordinateur d'il y a 5-6 ans et vous mettez un système Linux par exemple dessus, vous aurez exactement le même service, voire mieux qu'avec un ordinateur d'aujourd'hui avec Vista. Et sur le fait que les ordinateurs, enfin le système Linux est très compliqué, j'invite tous les auditeurs à aller sur le site d'Ubuntu, de télécharger le système, de le graver sur un CD et de le faire démarrer depuis un CD uniquement.
Préciser Ubuntu, ça s'écrit
U-B-U-N-T-U. Alors ce système est un système libre qui peut démarrer depuis un CD, donc vous l'essayez, vous rendrez compte qu'il fait tout seul et que ça marche aussi bien que Microsoft, je dirais même mieux, parce que je trouve que l'ergonomie est beaucoup plus soignée. Et ensuite,
c'est le conseil que vous donnez aux internautes, voilà. Et c'est la grande majorité aux auditeurs, pardon, les auditeurs qui ne sont pas des grands spécialistes d'informatique.
Voilà, vous mettez juste le CD, vous démarrez l'ordinateur avec et vous pouvez voir que c'est un système qui marche très bien, qui est facile d'utilisation. Et s'il vous plaît, vous cliquez sur une petite icône qui vous l'installe et vous verrez que ça marche parfaitement bien, aucun problème de pilote, il reconnaîtra vos imprimantes, vos appareils photo. Alors certains appareils ne sont pas connus, mais c'est toujours un problème de pilote propriétaire, c'est-à-dire que par exemple moi j'ai le Linux, j'ai eu un problème avec mon imprimante Lexmark parce que Lexmark ne veut pas donner l'autorisation à Linux de développer les pilotes. Je l'ai quand même trouvé sur un forum, quelqu'un qui l'a fait pour moi.
Et vous pouvez installer ce CD comme vous dites sur un ordinateur équipé de Windows?
Bien sûr, moi j'ai un double il gère tout le CD, c'est-à-dire que moi j'ai un ordinateur avec un système Windows, le CD a installé le système en gardant mon système Windows, et maintenant j'ai les deux systèmes, je choisis quand je veux.
Question toute simple aussi, où trouve-t-on ces logiciels pour Linux, qu'ils s'appellent Linux ou autre, où les trouve-t-on?
On les télécharge sur Internet, et vous pouvez aussi commander sur Internet, et vous les envoie gratuitement Ubuntu, si vous voulez le logiciel.
Alix Cazenave, vous vouliez intervenir?
Oui, juste pour dire que la dernière Install Party, c'est des réunions en fait des événements au cours desquels des bénévoles, des membres de la communauté du libre vont installer sur les ordinateurs des visiteurs, installer des logiciels libres.
Et comment fait-on pour se renseigner?
C'est en général annoncé sur Internet, sur les forums. La dernière Install Party, on a eu 3000 visites à la Cité des Sciences, 3000 personnes qui sont venues dans un week-end pour se faire installer la dernière version d'Ubuntu.
C'est aussi ça, hein, l'esprit Internet, l'esprit d'entraide.
Voilà. Je veux dire aussi qu'on a, oui, on a une distribution française qui s'appelle Mandriva. On a un éditeur français de logiciels libres. Donc on a également une industrie nationale, et il existe aussi, pour ceux qui ne le savent pas, il existe aussi beaucoup de logiciels libres qui sont faits pour fonctionner sous Windows. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le pack Microsoft Office. Vous pouvez aussi prendre une alternative qui s'appelle OpenOffice, qui remplira exactement les mêmes fonctions.
Alors, grand débat au standard de service public. Beaucoup de gens nous disent, mais si vous voulez échapper à Microsoft, utilisez un Mac, comme nous l'a dit un auditeur. Mais Thierry à Lyon nous dit également, Apple utilise les mêmes pratiques que Microsoft. Essayez donc d'acheter un Apple sans Mac OS, ça serait impossible.
Apple, c'est que c'est comme Microsoft, c'est un système propriétaire. Ils sont plus petits, donc on a l'impression qu'ils sont moins méchants, mais c'est exactement les mêmes pratiques. Hein.
Et puis cet autre témoignage, je le trouve intéressant, Marion à Lens nous dit, parce que effectivement, apprendre oui ou non l'utilisation de Microsoft à l'école et à l'éducation nationale, on vient de se poser la question. Marion nous dit, lorsque vous regardez les offres d'emploi, les critères d'embauche s'appuient sur la maîtrise de certains logiciels comme Word, Excel, etc. Et votre candidature pour le poste peut être rejetée si vous n'avez pas la maîtrise de tous ces logiciels, et notamment faute de maîtrise de Microsoft, vous pouvez être refuser à une candidature.
C'est le problème de la domination. Si je peux sortir un peu du sujet, juste pour revenir là-dessus, en fait, la procédure qui est actuellement contre Microsoft, qui a été lancée par Opera. Donc Opera, c'est un exploitant Internet, l'équivalent d'Internet Explorer. On peut se demander, mais pourquoi ils font ça? En fait, leur explication est très simple, parce que le monde est Microsoft, tout converge vers Microsoft. C'est-à-dire que tous les logiciels ne fonctionnent qu'avec Microsoft, et même Opera, vous pouvez pas aller sur certains sites, ça ne fonctionne pas parce que c'est fait pour le standard Microsoft. Même par exemple, vous allez sur la France 2, vous regardez le journal du soir, ça ne marche pas, parce que c'est fait pour marcher seulement avec Microsoft, ou avec un plugin qui marche à la limite sur Apple, mais pas sur les Linux. Et le cas de l'auditrice est exactement le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme la domination Microsoft, vous devez maîtriser les logiciels Microsoft. Alors qu'on pourrait très bien vous demander de maîtriser le traitement texte, par exemple, parce que ce soit avec Microsoft ou avec OpenOffice, c'est les mêmes pratiques, c'est la même chose que vous pouvez faire.
Écoutons Gwenaël à Bordeaux. Bonjour Gwenaël, je vous écoute.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors voilà, alors je vous appelle simplement, et il se trouve que depuis tout à l'heure, j'entends qu'on ne peut pas acheter un ordinateur sans la licence Windows. Or, il me semble que c'est faux. En fait, on l'achète avec la licence Windows, mais on peut se la faire rembourser. Il suffit de contacter Microsoft.
Je vois le hochement de tête de mes deux invités. Je vous laisse poursuivre, Gwenaël. Allez-y.
Une procédure qui est un petit peu compliquée.
Voilà. Mm-hmm.
Mais souvent, c'est pas écrit sur la facture. Donc, il me semblait que c'était quand même judicieux de le préciser, puisque ça existe. On peut le faire. Moi,
Alix Cazenave pour l'April.
Oui, on peut le faire grâce à un juge.
Grâce à un juge, ah oui, c'est compliqué. Oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai vu certaines factures, on achète un ordinateur et sur la facture, il n'est pas précisé effectivement le montant du logiciel qui est pourtant inclus dans le prix. Sans savoir ce qu'on achète.
Jamais. Ça n'est jamais précisé, tout simplement parce que les accords d'exclusivité qui sont passés en amont entre Microsoft et les constructeurs sont totalement opaques. Ce sont des points de concurrence qui sont assez stratégiques, donc ça n'est jamais révélé au public. Et donc, le public ne peut jamais savoir quel est le prix de sa licence Windows, combien elle a coûté au constructeur et combien c'est répercuté sur le distributeur et in fine sur le consommateur.
Gwenaël, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, en fait, ça dépend vraiment des endroits où vous achetez vos ordinateurs, puisque, bon, par exemple, sans citer de marque, je vois pour Planète Saturne, moi, cette année, j'ai changé d'ordinateur et on me l'a proposé de récupérer 100€ sur ma licence OEM de Windows Vista, puisque je ne voulais pas Vista sur mon ordinateur. Voilà. Et je l'ai pas acheté à cet endroit-là au final parce que j'ai eu une autre opportunité. Mais voilà.
Gwenaël, vous êtes un consommateur vigilant. Très bien. Bravo en tout cas. Merci Gwenaël.
Peut-être que le distributeur était un assembleur qui vendait la licence en plus et qui pouvait vendre l'ordinateur sans la licence.
C'est-à-dire que non, on a des licences étaient figées avec les ordinateurs, donc exactement les mêmes cas que vous parlez tout à l'heure. Simplement, comme c'est par rapport au fait qu'on peut pas faire de vente forcée et que on peut se faire rembourser sa licence à partir du moment où on entame les démarches. Maintenant, je sais que les démarches sont compliquées. Voilà.
Elles sont très compliquées parce que vous savez qu'il y a un consommateur qui avait gagné au tribunal de Puteaux sur Nantes Racer. Il est obligé de saisir la justice parce que toutes les démarches qu'il a entamées n'ont abouti nulle part. Et donc la justice lui a donné raison. Et là, Microsoft a fait appel et ça retourne en cassation. Mais il avait gagné en première instance.
C'est dans ce cas-là qu'on imagine que l'instauration des class action pourrait être utile. Gwenaël, il me semble que vous vouliez ajouter un petit mot sur Vista.
Simplement, oui. Voilà, j'entends aussi que Vista ne fonctionne pas bien. C'est vrai que Vista est peut-être en avance pour la génération de machines, mais je vous assure que les prochaines machines et même les machines les plus puissantes du moment font marcher Vista très très bien.
C'est votre avis. Chez moi, ça marche pas. Bruno.
Mais quel est l'intérêt de faire des machines plus puissantes pour faire fonctionner un système qui finalement ne rend pas plus de services? C'est toute l'absurdité du système Microsoft en fait.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, j'essaye pas de défendre Microsoft, ils sont indéfendables, certes, mais bon, il n'y a quand même pas que des points négatifs, quoi.
Ça se bouscule au standard. Je voudrais qu'on prenne encore deux auditeurs. Bruno, bonjour, je vous écoute. Vous appelez de l'Aude.
Voilà, j'ai abandonné le système. Bonjour d'abord.
Bonjour.
J'ai abandonné le système Windows en 2005 et je l'utilise personnellement et professionnellement depuis. Alors, j'ai une Linux.
Bon, et vous êtes content?
Alors, j'en suis parfaitement ravi. Si vous voulez, le problème,
ce n'est pas handicapant, comme on l'a dit, il n'y a pas de problème d'incompatibilité quand vous voulez avoir accès à d'autres sites de téléchargement ou non?
Je dirais que ça a beaucoup changé en quelques années. C'est un système qui évolue extrêmement vite, c'est-à-dire que le cycle de développement des logiciels libres n'a rien à voir avec le système propriétaire. Je dirais que de mois en mois, les choses évoluent dans le bon sens. C'est vrai que quand on prenait Linux en 2003, c'était quand même une affaire de militants, faut bien le dire. aujourd'hui, je pense qu'à peu près n'importe qui, surtout s'il n'a pas les réflexes Windows.
Mm-hmm. Et bien même les parlementaires, on l'a appris ce matin, même les parlementaires utilisent Linux. Merci
absolument.
Beaucoup Bruno. Armand est avec nous également à Nîmes. Bonjour Armand.
Oui, bonjour. Oui, moi ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on dise que c'est pas possible d'acheter quelque chose sans Vista. Si on va sur tous les sites allemands, on trouve la moitié des PC, des portables ou autres, qui sont absolument libres de tout système et qui sont équipés de FreeDOS, c'est-à-dire le DOS qui permet de coller tout ce qu'on veut.
C'est vrai qu'Armand, on utilise peut-être un raccourci en parlant de la difficulté d'acheter des ordinateurs sans Vista, mais c'est vrai que s'il faut se rendre sur un site allemand, etc., on a cité l'exemple de ces grands distributeurs, hein, Darty, Fnac, etc., Surcouf et compagnie, où il est impossible d'acheter un ordinateur qui n'est pas équipé de Vista.
C'est exact, mais bon, c'est pas plus difficile d'aller sur son PC, d'aller sur n'importe quel site allemand, que de prendre sa voiture et d'aller faire 30 ou 40 kilomètres dans un grand centre commercial.
Il y a des personnes qui préfèrent acheter dans un magasin, oui.
Il faut pas négliger qu'il y a une grande majorité de consommateurs qui sont encore très méfiants par rapport aux achats Internet, et surtout si ça vient de l'étranger.
Merci en tout cas. En tout cas, on écoute votre point de vue, hein, Armand.
Voilà, mais
bien
il ne faut pas dire que ce n'est pas possible. D'accord. Et on est très en retard sur l'Allemagne, et pour être en Europe, c'est un peu grave.
Merci beaucoup, Armand. Voilà. Alors justement, ce propos aussi va vous faire peut-être plaisir, je ne sais pas. En tout cas, on l'écoute. C'est le propos d'une auditrice qui nous dit « C'est à la mode de critiquer l'omniprésence de Microsoft, mais personne ne louera jamais assez le fait que c'est grâce à Microsoft que l'informatique est aujourd'hui tellement démocratisée. » Voilà, donc un point de vue que l'on peut également écouter. Et celui-ci, Fabien à Lyon, nous dit « Vous faites de la désinformation. Office XP fonctionne très bien avec Vista. Et deuxièmement, Microsoft ne revend pas ses informations personnelles à des chaînes de spam. » Qu'en pensez-vous, FC Que Choisir et April?
Ce qu'on en pense, nous, du côté des utilisateurs de logiciels libres, c'est que un système qui est fermé et qui fait un renvoi d'informations dont on ne sait pas ce qu'il contient, n'est de toute manière pas digne de confiance. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on sait que la NSA, National Security Agency, une agence de sécurité américaine qui est assez renommée dans le monde, a déconseillé aux entreprises, notamment un peu sensible aux États-Unis, d'utiliser des systèmes Microsoft. Il y a peut-être des questions à se poser. D'une manière générale, la question de la maîtrise de son système d'information, de savoir exactement ce que son ordinateur fait, pourquoi, comment, à quel moment, quelles informations sont échangées, c'est quelque chose de très important. C'est probablement pour ça que le ministère de la Défense a opté pour des systèmes libres et non pas pour des systèmes propriétaires, fermés, opaques, dont ils ne savent pas comment ça fonctionne.
Donc dans l'immédiat, pour l'auditeur qui nous écoute, soucieux d'acheter un ordinateur, la première chose qu'on pourrait lui dire, pour conclure, c'est de rester vigilant, de faire attention et de s'ouvrir peut-être à d'autres systèmes, à ces systèmes alternatifs qu'on a cités à plusieurs reprises.
Bah surtout d'essayer, parce qu'en fait le problème aujourd'hui c'est que le marché ne lui permet pas d'essayer, parce que
on vient de l'entendre si en allant sur des sites internet.
Oui, mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même très compliqué. Moi je fais souvent ce travail là d'aller regarder un petit peu sur site internet ce qu'on nous propose et tout. C'est vrai que pour trouver un site qui offre autre chose que du Windows, c'est toujours des sites qui sont pas très connus et on a toujours peur finalement d'aller acheter sur ces sites là et donc le problème aujourd'hui c'est que finalement le consommateur n'a pas le choix et le marché ne lui permet pas de faire ce choix, donc il faut qu'il le fasse de lui-même. En fait,
bataille, on l'a dit, dans les supermarchés, le pouvoir est dans le chariot, mais surtout bataille judiciaire. L'UFC Que Choisir, vous allez, j'imagine, continuer donc.
Bien sûr.
Ces accusations, hein, que vous portez, vous allez continuer de les porter. Et j'imagine aussi à l'April que pour vous aussi le combat continue avec cette demande, on l'a entendu, que vous allez faire à nouveau à Luc Châtel, le secrétariat d'État à la consommation, au secrétariat d'État à la consommation et auprès de la répression des fraudes aussi.
Oui, bien sûr. Pas plus tard qu'en décembre, avec l'UFC, nous avons écrit une lettre commune avec également le groupe de travail des taxes et la CLCV. Nous avons écrit une lettre commune à Bruno Parent, donc le directeur de la DGCCRF. Cette lettre n'a pour l'instant pas eu de réponse. Ma foi, nous allons continuer.
Je suis sûre qu'il
faire intervenir
écoute.
Les parlementaires, voilà. Et à interpeller le ministre et la DGCCRF.
On pourra donc reprendre peut-être le débat, qui sait, avec Bruno Parent en personne et vous-même. Je vous propose d'écouter un jeune artiste qui a choisi de s'appeler Ours. Ours, extrait de son premier album.
Service public.
Quand Nina est sur le nid.
Édouard Barrero pour l'UFC Que Choisir et Alix Cazenave pour l'April, l'association de la promotion, pour la promotion et la défense des logiciels libres. Votre site, d'ailleurs, internet est en ligne, je crois, sur le site de service public sur franceinter.com. Le sujet était tellement, vous avez été tellement réactif aux standards de service public que je vous propose de continuer à réagir, hein. N'hésitez pas sur franceinter.com. Est-ce que l'on peut échapper, oui ou non, au monopole de Microsoft? Je suis sûre que nous reprendrons ce débat très bientôt. Donc, merci à vous. Dans un petit instant, la parole à Stéphane Bern et son fou du roi. Stéphane reçoit Daniel Lebrun et Sarah Biasini. Salut à tous, à demain.
France 3 vous donne rendez-vous.
Thalassa vous propose une escale interdite, le port de Buenaventura en Colombie. Plaque tournante de la cocaïne et théâtre de violents affrontements, Buenaventura est l'une des villes les plus dangereuses au monde. Drogue, misère, délinquance, immersion dans cette ville oubliée où les armes et l'argent font la loi. Un reportage de Daniel Grand-Clément, Buenaventura, le port de l'angoisse, c'est demain à 20h55 dans Thalassa, sur France 3.
France 3, de près, on se comprend mieux.
Merci de votre fidélité à France Inter. Il est 11h passé de 10 secondes. Un point sur l'actualité avec Claire Servageant.
6 mois de prison ferme requis contre la propriétaire de la chambre de bonne dans l'incendie de laquelle 5 pompiers ont péri en 2002 à Neuilly. Le réquisitoire vient de commencer devant le tribunal correctionnel de Nanterre qui juge la propriétaire des lieux et ses locataires. L'installation électrique a été mise en cause dans ce sinistre. Le parquet a donc demandé 2 ans de prison dont 6 mois ferme pour la propriétaire poursuivie pour homicide involontaire. Il a demandé la relaxe pour les locataires pour ce motif. Mais le réquisitoire n'est pas terminé. Le naufrage de la petite Julie pourrait être dû à un accident causé par l'ouverture d'une trappe à l'avant du bateau.